on m'a dit va falloir faire tout seul. J'ai d'abord fait la gueule, puis j'ai ri de ma gueule. Tous ces mots qui dégueulent, ça fait une drôle de barre, pas enraser les murs. Au début, pas trop sûr, un moment faut y aller. Au milieu de la rue, y a plus à hésiter. Le trottoir est de marbre de l'autre côté. Le jour où j'ai failli retourner dans la tombe, le temps était aux bombes et je les ai bravés. Les gens étaient en nombre à guetter ma rechute. Nous n'étions que des ombres devant le même but. Dans les ruelles sombres et dans les bars à putes. Au milieu des décombres et des bêtes en rut. Le jour où j'ai failli m'imaginer poète, je n'étais moi aussi le retour qu'une bête. Mais je...
Bonsoir, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes à l'écoute d'Imaginaire sur le 101.5. Ce soir, on a dans le studio Patrice et le retour du professeur Patrice qui nous parlera de science tout à l'heure.
Et de fiction.
Bah, d'abstrait et de réel. Un peu de fiction aussi.
Ouais,
si,
en début d'émission, un petit peu.
Si Romain veut absolument
mais
que
oui,
je parle de Dune.
On va parler de Dune quand même. C'est l'événement
cinématographique.
De science-fiction, on va dire, de ces dernières années. Bon.
Ah, il y a quand même.
Karine, chronique de livres.
Oui, effectivement, de la Sphéria.
Pierre-Marie qui nous a ramené les mêmes heures lumière que la dernière fois dont il n'a pas eu le temps de parler.
Je pense que j'en parlerai la prochaine fois.
Faut pas
se leurrer, mais je vais surtout parler d'imaginaire puisque ça approche.
Ouais.
C'est par ça que tu fais des mots croisés en même temps que l'émission.
C'est des mots fléchés, monsieur.
Ah bon, pardon.
Et puis Sébastien, on va essayer d'avoir enfin en ligne Maude.
Maude Chalmel, donc pour le Japon sans mystère.
Ok, donc on va essayer de choper au téléphone dans quelques minutes. On commence l'émission avec un morceau de Retro Goblin, un petit peu de 8 bits aussi. On va reparler un petit peu de l'Angers Geek Fest.
Mais le problème avec ça, c'est qu'on a tendance à s'éloigner pour regarder.
Bon, rapprochez-vous alors si vous avez tendance à vous éloigner. C'est Retro Goblin qui vous a fait peur. Un extrait de leur album Cheap Them All, qui est une référence à Metallica. D'ailleurs, la pochette, et ils reprennent la pochette de l'album Kill Them All de Metallica, mais en pixel. Et donc, c'est plutôt de la musique 8 bits. Et le titre du morceau, c'était Up, Up, Down, Down, B, A, Start.
Mais ça, c'est le code dans Final Fantasy.
Non. C'est presque ce qu'on a appelé le code Konami, qui était un code qu'on faisait avec sa manette sur la NES dans les années 80, pour cheater un petit peu, genre avoir 30 vies à contrat, ce qui peut aider, hein, parce que moi, j'ai jamais tenu plus d'une minute dans ce jeu de baston. Ou alors dans Gradius, avoir plein de bonus. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, enfin. Et donc, l'Angers Geek Fest, voilà. Vous pouvez y jouer à plein de jeux vidéo, mais nous, on n'a même pas eu le temps, en fait, imaginaire.
Ah bah,
tellement on a vu
du
monde.
D'habitude, quand on est derrière un stand, hein, on ne peut pas faire autre chose.
Bon, on s'est pas mal promené aussi, on a vu plein de belles choses.
Ouais.
Et il y avait des super expos. On a animé deux tables rondes aussi, quand même. Hein.
Oui, oui. Une qui était programmée et puis une qui s'est fait un petit peu à l'improviste en fin de soirée.
Mais qui était très intéressante.
Et Selfay et puis Jérôme Nedelec nous ont parlé un petit peu d'histoire et de différence entre l'histoire petit H et l'histoire grand H.
Et c'est une majuscule, la différence.
Et comment on
et voilà, la table ronde est terminée, merci.
Et puis après, le soir, nous avions Boris Beuzelin et Tony Muriot qui nous ont présenté la genèse, la création et un petit peu la suite de leur série Paria, dont on avait évoqué...
Voilà, mais c'était sujet. Bien aussi d'avoir des planches à...
Boris Beuzelin
pas que à la radio, quoi, avec un... visuel.
De visuel, oui, c'est ça, d'agencement visuel dans une BD, c'était quand même assez impressionnant.
J'ai appris plein de trucs sur la différence, enfin, comment on fait ses cases et tout, et comment on dessine du mouvement en manga, en comics, en franco-belge.
Comme dit l'adage, on s'est couché quand même beaucoup moins con après ça.
Et donc, beau succès pour l'Angers Geek Fest avec 6000 personnes par jour. Je crois qu'ils sont assez contents. Et donc, ils ont déjà annoncé la prochaine date. Ce sera les 3 et 4 avril prochain, enfin 2022, avec pour thème le geek au féminin.
Geek Fest au féminin,
ouais. Et on y sera, j'espère. Quelques news d'imaginaire aussi, quand même. Le salon imaginaire qui arrive.
Non, non, non. Faut pas en parler de ça.
Non, bon, okay.
On a eu une réponse extrêmement tard, officielle, et effectivement, notre salon imaginaire qui devait avoir lieu le week-end du 1er et du 2 mai, reporté pour cause Covid, aura lieu le 27 et 28 novembre au Grenier Saint-Jean, avec bien sûr une flopée d'auteurs, illustrateurs, éditeurs et pas mal d'intervenants qui vont venir vous présenter leur dernière sortie et échanger avec les lecteurs ou les curieux. Ça reste un salon gratuit, ouvert à tous et notamment aux curieux, ceux qui ne connaissent pas forcément le monde de l'imaginaire, les mondes de l'imaginaire.
Ok. Allez, on se fait une toute petite pause musicale avant de retrouver... mais on va reparler un petit peu avec Patrice avant de retrouver Sébastien et Maud en interview. On écoute Hans Zimmer pour la BO d'un certain film de science-fiction qui est sur vos écrans en ce moment. Living Calada. Tellement nul en Dune que je sais même pas dire Caladan. C'est quoi Caladan?
En poser la question, Patrice.
C'est toi notre spécialiste, Frank Herbert. C'est toi qui as lu ce roman et vu ce film.
Bah, c'est pas, quand on dit c'est moi, j'espère que je suis pas le seul, parce que sinon c'est, on va pas avoir la deuxième partie, non, vu qu'il attend la rentabilité de la première partie de Villeneuve pour faire la deuxième. Ou pour,
on va y aller, on va y aller.
Mais oui, oui, j'ai lu le roman, j'ai lu les romans, enfin de Frank Herbert, pas ceux du fils qui était après. J'ai beaucoup aimé les romans. J'avais été voir à l'époque le film de David Lynch.
Ah oui.
Qui a ses mérites, hein. Il a beaucoup été décrié, moi je trouve qu'il a ses mérites, et puis ça m'a donné en tout cas envie de relire le premier roman que j'avais lu et la suite. Donc Dune, le Messie de Dune, les enfants de Dune, l'empereur dieu de Dune, les hérétiques de Dune et la maison des mers.
Ok. Hein, pas mal. Est-ce que tu as été le voir? Est-ce qu'il faut aller le voir en 3D? Est-ce qu'il faut aller le voir en 4DX?
Oh là là, alors là, je dirais, moi j'ai été voir simplement.
Okay. Parce que moi j'ai vu des gens qui l'ont vu en 4DX et sont pris des jets d'eau. Dans le visage, alors oui, que bah, Dune, c'est pas censé se passer dans la moitié
dans
le visage.
Oui, c'est ça, oui.
Non, mais moi, ou alors de l'épice.
Alors, je suis mauvais juge.
De l'urine de ver géant, peut-être, je
sais pas. Oh, ça, là. Je suis mauvais juge sur ce film, vu que j'ai lu le roman et donc on peut pas forcément l'aborder. Je connais l'histoire, donc si tu veux, je vais voir un film dont je connais l'histoire, donc j'ai pas du tout des effets de surprise, des retournements de situation, quoi que ce soit. Donc je peux pas le juger de ce point de vue-là. Par contre, ce que je peux dire, c'est que le visuel, c'est un peu normal pour Denis Villeneuve, c'est extraordinaire. C'est grandiose, c'est gigantesque, c'est, enfin bon, c'est, voilà, que les acteurs sont bons. Enfin, moi, j'ai trouvé que les acteurs étaient bons. Je l'ai pas vu en VO, donc je peux peut-être pas juger. Le scénario est très proche du livre. Les explications politiques sont plutôt bien exposées, parce que c'est quand même un truc très très complexe, donc je trouve qu'on suit bien. Alors, peut-être que le fait que j'ai lu le livre, ça aide. Le vocabulaire du bouquin est utilisé. Moi, je me rappelle quand j'avais commencé le premier bouquin, j'étais tout le temps fourré dans le l'index ou le glossaire qui était à la fin, pour essayer de comprendre chaque mot les uns après les autres. C'est pas obligatoire, il y en a qui n'ont pas fait ça puis qui ont compris quand même, mais en fait c'est vrai que j'ai passé très longtemps à lire les deux premiers chapitres. Mais une fois que j'ai les deux ou trois, et après, j'étais complètement dans l'ambiance et je connaissais chaque terme, etc. Donc là, c'est pareil, le vocabulaire du livre est utilisé, c'est bien expliqué et tout. Donc, c'est c'est un film à voir, je pense quand même, et puis après, chacun se fait son opinion. Comme disait Mathieu, notre illustrateur favori, la seule chose qu'on ne ressent pas, c'est la chaleur. Ce qui est un peu dommage pour Dune. Bon, c'est vrai que ça m'a un petit peu effleuré. Je veux dire que quand on est pris dans l'ambiance, etc., c'est pas dramatique. Hein. Mais je me rappelle certains films où il y a de la neige, où on a froid en voyant le film. Là, on n'a pas chaud. Et on n'a pas l'impression, surtout des fois, que les acteurs ont chaud aussi. Non, par contre,
c'est trop propre.
L'immense. Ouais, c'est ça, c'est un peu propre. Mais moi, honnêtement, ça ne me dérange pas.
Ok. Bon, on sait ce qu'il nous reste à faire. Sébastien, on est prêt pour ta chronique?
Oui, là, je contacte.
Ouais. Elle a 17 secondes. Hein. Je lance le générique.
Ouais.
Alors, est-ce qu'on l'entend là? J'entends quelque chose, moi.
Ouais, il y a le...
Allô, allô.
Ouais, ça marche.
Ah, oui, on entend.
Ça marche.
C'est fou. On a fait une formation technique pour en arriver là, donc j'espère que ça marche.
Ouais, j'ai cru comprendre ça. Tout va bien?
À Angers, tout va bien, ouais. Il fait une chaleur dunesque, mais...
Non. Dans le studio seulement.
On est plutôt en pierce-neige à Angers.
Bon, en même temps, on passe après l'émission des sportifs, donc...
si vous avez des épices, c'est plutôt bon.
Donc, bonsoir, Maud.
Eh ben, salut, Angers.
Donc merci à toi Maud, et encore désolé pour la dernière fois. Donc c'est Maud Chalmel, donc on a plaisir d'avoir pour ce duplex. Donc je vais parler avec elle sur le 101.5, les amis, de la 9e BD jeu Vivez l'aventure, le Japon aux 100 mystères. Alors rapidement, c'est sorti en août 2021 chez 404 éditions. Alors il est à noter que l'Asie, Maud, n'était pas étrangère. Ayant illustré en 2011, je le rappelle aux auditeurs, Le cœur du monde extraordinaire et Conte du miel et des astres neigeux en 2009. Or, qu'est-ce que l'Asie éveille en toi, Maud, comme émotion imaginaire?
Oh ben, c'est plutôt que du bon. c'est des terres de mystère, de beauté, de poésie, des. de nature, de verdure. C'est voilà, c'est Miyazaki, c'est tout ça. C'est toute une culture dans laquelle j'aimerais bien aller, et j'ai pas eu l'occasion encore.
D'accord. Et on a quand même l'occasion de s'évader donc dans le Japon que tu imagines si bien dans l'album.
Oui.
Et de Japon, les amis, donc on a une face sombre qui en est parlée donc dans Orient Extrême, notre nouvelle anthologie imaginaire. Sauf qu'ici, amis auditeurs, le Japon revêt un nom insulaire empreint de poésie, l'île des vents de brune. Justement, Maude, quelles sont tes ambiances en images recherchées que tu souhaitais pour l'île des vents de brune?
Et ben toujours cette poésie, et je voulais aussi quelque chose de évidemment de japonais, mais d'intemporel, et de je voulais que ça ait, enfin il fallait que ça ait quelque chose de d'asiatique, mais y apporter quelque chose d'un peu plus mystique. Et puis c'est, mais il fallait pas, voilà, il fallait pas que ce soit entièrement japonais.
D'accord.
Donc je me suis inspirée graphiquement par des petites astuces, par certains paysages, mais j'y ai apporté une petite touche neutre et un petit peu chalmélienne peut-être, je sais pas, mais voilà.
Ok. Et pas n'importe quelle île, dis donc, parce qu'elle a ordinairement la capacité de lever les amarres pour voguer dans une mer inconnue. Alors je vous en dis pas plus sur le 101.5 pour que les mystères annoncés dans le titre restent entiers. Autrement, couramment, dans un vivel aventure, il y a des jeux de recherche, d'objets, de numéros, comme tu connais si bien Romain. Et de fait, avant de conclure, Maude, comment t'es-tu appliquée à colorer de difficultés ces jeux dépassant la simple observation?
Comment je m'y suis appliquée avec amour déjà. il fallait que j'avais une obligation de la part de l'éditeur. Il fallait que ce soit accessible pour les enfants. Il fallait que ce soit pas trop désagréable et pénible pour les adultes non plus. Donc il fallait qu'il y ait un niveau de difficulté et qui soit sympathique pour les deux, en fait. C'est pour ça qu'on a d'ailleurs pas mal d'adultes en fait qui sont très contents d'y jouer.
Ouais, moi j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Je le trouve même que c'est un des plus difficiles de la série, mais tout en étant abordable pour un enfant qu'on peut accompagner dans sa lecture justement.
Oui, c'est ça. C'est le côté poétique qui rend l'annonce très peut-être un peu ardu pour les enfants. C'est pour ça que c'est chouette qu'il y ait un adulte à côté pour l'y accompagner.
Et d'ailleurs, je tiens à signaler que l'auteur, c'est Alain Tépuis-Ségur. Toi, tu es l'illustratrice. Et je tiens à te faire une petite surprise. Donc, avec l'équipe imaginaire, j'ai eu des mots d'Alain Tépuis-Ségur que je souhaite te rapporter en direct. Donc, de lui. Alors, dans ce genre d'ouvrage, il existe un lien essentiel entre le mot et l'image. L'image dit ce que le mot ne laisse entendre. Le mot montre ce que l'image ne laisse voir. C'est une alchimie agréable dont le pouvoir n'a qu'un but. Un plongeon dans l'imaginaire, ça tombe bien, on est en plein imaginaire. Une fois immergé, la distinction s'efface pour que la magie opère. Encore merci à Maude.
Et donc,
voilà, donc c'était la petite surprise que je voulais te faire. Donc, et Alain nous écoute en ce moment même. Et là, je vais laisser la parole à Romain donc pour le mot de la fin. Si tu as une actualité du moment, un projet jeunesse à nous évoquer.
Ouais, moi j'ai vu sur ta page Facebook que tu allais sortir, enfin, illustrer un livre sur un musicien, un créateur de guitare, c'est ça?
Mario Luthier.
Oui, Mario Petit Luthier. C'est un livre qui a été écrit par le chanteur Van Huppier et qui est raconté par Thomas Dutronc.
Oui.
Donc on a une belle histoire et une très jolie voix derrière avec de très belles musiques. C'est sur les prémices de la guitare Selmer, son histoire et comment Django Reinhardt a pu la populariser. Et c'est une histoire très très romanesque, très très onirique aussi. J'aime bien toujours avoir ces touches d'onirisme dans tous mes travaux.
Ok, donc ce sera un livre CD en fait.
Ouais, ce sera un livre qui pourra se passer de CD, mais la voix de Thomas est tellement agréable que c'est dur de s'en passer.
C'est sûr.
Je sais pas comment ça va être édité encore.
D'accord.
Voilà, mais ça devrait sortir pour novembre, je pense, entre novembre et janvier.
Et sinon, tu travailles pour Fluide Glacial. Alors là, c'est un univers complètement différent.
Complètement différent, oui. Je me lâche un petit peu plus. C'est un peu plus grivois, mais tout aussi poétique. J'essaie d'apporter toujours un peu de visuel, un peu de magie dans un humour un peu plus potache. Mais ça fait du bien.
Ok. Ouais, ce sera tout pour moi.
Donc, c'est très sympathique à toi de nous avoir appelé. Donc, j'espère que ça a donné envie à nos auditeurs de découvrir ton album, qui est aussi en présentation sur la page Facebook Imaginaire.
Ouais, on t'a même piqué la photo du livre
en plus. Ouais. Voilà, pour un peu voyager. Donc, je te remercie encore, Maud, pour nous avoir dit ces quelques mots ce soir en notre compagnie.
Ok, merci. Ouais. Et du coup, on peut te suivre alors sur ta page Facebook.
Oui, Instagram aussi.
D'accord. Donc c'est Maud Chalmel.
Maud Chalmel, trait d'union, illustration.
Ok.
Et ça, j'ai un site sur Wix, mais je ne l'ai pas mis à jour depuis quelques années.
Ok, et alors on va terminer par un choix musical de Sébastien.
Un choix musical, donc je voulais rester...
Shoujo Skip.
Voilà, Shoujo Skip, je voulais rester un peu dans le ton japonais. Donc, laissez-vous happer maintenant par le newspaper de Shoujo Skip aux belles envolées de guitare sur la fréquence du 101.5, le carrefour de toutes les musiques que vous aimez.
Au revoir Maud, merci.
Salut.
Bon, salut, ça m'a fait plaisir.
Moi aussi, salut.
virer son casque, son baudrier et son épée.
Ça, c'était effectivement quelque chose que vous n'avez pas entendu depuis un petit moment, c'est le générique de Prof Patrice. Alors, de quoi vais-je vous parler aujourd'hui, chers auditeurs du 101.5? Ne fuyez pas tout de suite, il s'agit de l'utilisation de l'abstrait pour décrire le réel. Parce qu'il y a quand même quelque chose de bizarre dans les mathématiques. Elles ressemblent à une construction abstraite, un jeu de l'esprit, un échafaudage de théories qui semble pouvoir exister indépendamment de tout matériel. Et pourtant, elles sont un outil formidable pour déchiffrer le réel. Il suffit pour vous en convaincre de regarder comment la physique, au sens large, se sert des mathématiques pour comprendre le fonctionnement de l'univers. Et ça fonctionne, puisqu'on peut à partir de là faire des prévisions sur des résultats d'expérience, construire des appareils que nos ancêtres n'auraient jamais imaginés, et pas uniquement dans le domaine de l'informatique. Les gratte-ciels vertigineux, les ponts qui franchissent d'incroyables distances sont calculés avant d'être bâtis. Mais reprenons au début. Le chiffre 1 en soi semble ne servir à rien si on ne le rattache pas à un objet, une pomme par exemple. Pourtant, il n'y a pas besoin de pomme pour bâtir un système mathématique avec des nombres entiers que l'on peut additionner, soustraire, multiplier, diviser ou d'autres opérations dont je vous ferai grâce ici. On peut même choisir une base selon laquelle le résultat d'une addition sera différent. 1 plus 1 égale 2 en base 10, celle que nous utilisons le plus couramment, mais 1 plus 1 égale 10 dans le système binaire utilisé entre autres par les informaticiens. On peut donc jouer avec les mathématiques sans nécessairement les rattacher à une réalité physique. Les mathématiques, elles existeraient-elles alors en dehors de toute réalité physique? C'est pas si simple. Car sauf à penser que les mathématiques existent en dehors de tout être vivant susceptible de les utiliser, et d'ailleurs il y a des scientifiques qui y pensent sérieusement, c'est quand même bien l'humanité qui a développé cet outil, utile en premier lieu dans la vie courante. Revenons à mon chiffre 1, qui est d'ailleurs aussi le vôtre, hein, et à ma pomme. Enfin, quand je dis ma pomme, le fruit. Hein. C'est quand même bien pratique d'avoir un système qui me dit que si je rajoute une pomme à ma première pomme, ça en fait deux. Et que si je vends chaque pomme 2 euros, ça me fera 4 euros pour mes deux pommes. Bon, d'accord, c'est cher, mais c'était juste pour l'exemple. Nous venons d'appliquer un système mathématique à une réalité que nul ne songe à contester. J'ouvre d'ailleurs une parenthèse à ce sujet. Au lycée, enfin, quand j'étais au lycée, quand on oubliait de mettre les unités dans un résultat de calcul, par exemple des mètres, des secondes, des grammes ou toute autre chose, le prof nous disait qu'est-ce que c'est, des choux, des carottes, des navets?
Excuse-moi, il y a un truc que j'ai pas compris. Quand tu étais au lycée, il y avait déjà des mathématiques.
On avait même commencé la théorie des ensembles, ce qui était, à mon avis, un peu trop fort pour les jeunes qu'on était, parce que quand on regarde la théorie des ensembles dans le détail, c'est quand même très, très compliqué. Mon prof qui me disait des choux, des carottes, des navets, et c'est vrai que quand on est jeune, on manque un peu de présence d'esprit et d'aplomb pour répondre à un prof, enfin, au moins dans mon époque, quoi. Alors, après tout, si j'additionne une pomme et une poire, ça fait quand même deux fruits. Hein, bon, comme quoi les unités. Bon, bref, revenons à nos moutons mathématiques. Je viens de vous parler d'un système mathématique par nature abstrait, l'arithmétique dans ce cas-là, qui permet de prévoir le résultat d'événements qui se passent dans la réalité. Si je rajoute une pomme à une pomme, ça fait deux pommes, c'est incontestable. Élargissons notre propos. Depuis les civilisations antiques, les Grecs, les Mayas, les Égyptiens, etc., les systèmes mathématiques ont évolué au fil des âges et permettent aujourd'hui de faire beaucoup plus, que ce soit en arithmétique, en algèbre, en géométrie, en topologie, etc., etc. Pourtant, le rapport de l'outil mathématique avec la réalité devient de plus en plus compliqué à appréhender. Le principe de la pomme, en substance, reste le même, mais les concepts deviennent beaucoup plus abstraits. Mais ils fonctionnent quand même. La géométrie non euclidienne vous dira sans doute quelque chose, car nous sommes tous capables de tracer un triangle sur une sphère et de mesurer que la somme des angles ne fait pas 180 degrés. Si je vous parle de l'utilisation des nombres complexes en physique, vous savez, le truc au carré qui fait moins 1, là, ça devient bizarre de l'utiliser pour la réalité. Mais ça simplifie les calculs pour modéliser cette réalité. Si maintenant j'évoque la géométrie riemannienne, les opérations sur les matrices et les tenseurs, l'équation de Schrödinger ou les fonctions d'onde, vous allez être largué. Et d'ailleurs, moi aussi.
Oui.
Cependant, ces outils fonctionnent pour décrire certains aspects de la réalité. La différence avec les nombres entiers et les pommes, c'est qu'on ne peut plus se les représenter, on ne peut plus les visualiser. Tout se passe comme si ces mathématiques-là revenaient à leur abstraction d'origine, comme si elles n'avaient pas de rapport tangible avec la réalité et qu'en même temps, elles étaient capables de décrire le réel avec assez de fiabilité pour qu'on puisse les utiliser. Si je rajoute que les mathématiciens découvrent parfois des systèmes qui ne sont que de pure construction intellectuelle et qui trouvent leur utilité bien après, et que certains aspects de la nature sont organisés pile-poil comme certains outils mathématiques, je ne citerai que les fractales, eh bien, il y a des questions qui se posent. Est-ce l'humanité qui a échafaudé l'outil mathématique ou notre univers est-il par nature mathématique ? Vous avez 2 heures et je ramasse les copies.
Alors justement, tu dis ça et il y a une auditrice qui réagit en te disant « c'est extraordinaire comme thèse » et il y a un livre écrit dessus qui est « Anathème » de Neil Stephenson et qui parle de l'opposition mathématique au monde immatériel parfait par rapport au monde matériel unique. Voilà, oui, Neil Stephenson.
Il y a beaucoup de scientifiques, il y a même un bouquin qui s'appelle « Notre univers mathématique » ou effectivement
de Max Tegmark,
dans la théorie des multivers. Non mais, merci,
ouais, merci de nous avoir cité.
Très bien, excellent.
Maintenant qu'on sait servir du téléphone. Allez, on va passer à la chronique de Karine. Non, c'est pas le moment de faire une ronde là.
Je vais donc vous présenter La Sphéria, le tome 1 de Malia Bellerin, de Livresque Édition. Alors, Malia Bellerin nous emmène au cœur d'un monde dystopique où les femmes sont toutes infertiles. Ça commence déjà.
C'est vrai ou pas?
Sauf une, Alia. Ah. Cette femme de 20 ans a été protégée lors de l'éruption volcanique qui a tout changé pour l'humanité. En plus d'être fertile, elle a un don de feu qui provoque...
Oui, mais si tu parles à côté...
qui provoque en elle chaleur, colère et force. On la suit dans sa compréhension de ce pouvoir, dans sa rencontre avec un homme qui semble également avoir des dons. En parallèle, elle est traquée par une société secrète, la Sphéria, dirigée par son père, qui veut à tout prix la récupérer. Avec ce premier tome, l'autrice aborde plusieurs thématiques. La question de choix de faire ou non des enfants, l'infertilité, la parentalité. Les relations amoureuses et les relations de manière générale. Elle nous fait voyager dans des endroits peu explorés dans le fantastique. Cuba, notamment, une île des Caraïbes, et Barcelone. Le personnage d'Alia est très détaillé. Elle a une personnalité forte, gardant des séquelles d'un traumatisme dans son enfance qui humanise parfaitement le personnage et nous pousse à entrer en empathie avec elle. Les autres personnages nous intriguent également par leur histoire et les liens que l'on va découvrir entre ces derniers. L'autrice est originaire de Lorraine, qui a toujours été bercée par le fantastique, le surnaturel et le suspense. Ces genres se retrouvent donc mélangés aisément dans son récit. Elle navigue entre le thriller, le fantastique et l'anticipation. Avec son premier livre, Frappe à la porte du ciel, elle mélange le fantastique et le thriller. Son second roman, la saga La Sphéria, qui se structure donc en 2 tomes, reprend les codes d'une dystopie fantastique. Et son dernier roman, Anesthésie placebo, emprunt les codes d'un thriller fantastique. Je vous invite donc à découvrir cet ouvrage qui est un bon moyen de s'évader, tant sa plume nous emporte facilement dans le récit.
Oui. Je fais une parenthèse en disant que justement sur les plateformes de streaming très connues, le coût d'un bout de l'espèce humaine, un genre de l'espèce humaine crève dans son ensemble, sauf une personne. Là, dans ce cas-là, c'est tous les hommes sont morts, sauf un. Et forcément, c'est l'histoire du mec, hein, on va pas parler des femmes, ça sert à rien. Ce qui m'énerve au possible. Bref, c'est un thème récurrent et je parlerai aussi du Fils de l'homme qui était sorti il y a une 20aine d'années maintenant, 25.
Il y a eu un film d'ailleurs.
C'était un film de Cuaron, mais c'était un roman de P.T. James avant. Je dois remonter à.
Et puis il y en a eu un autre qui avait été refait parce que le Fils de l'homme était Europe de l'Est, production Europe de l'Est, et il y avait eu l'équivalent américain qui était sorti un peu de temps après.
Mm-hmm. Bon, et je précise que dans ce bouquin La Sphéria là, de chez Livresque, là, chaque chapitre est illustré par un volcan en éruption. Alors si ça ne vous donne pas envie de le lire, ça.
Tu vois, là-dedans, tu sens la chaleur, pas comme dans Dune.
Bon, et un petit choix musical bien bouillant aussi, là. Karine, tu nous as choisi un truc ultra violent.
Pas spécialement. Mais enfin, bref. Pour poursuivre, je vous propose l'écoute de la chanson Sling Wall, groupe homonyme.
Il y a des gens qui ont un anglais pire que moi. C'est quand même assez impressionnant.
C'est Shield Wall, ça veut dire mur de bouclier, je pense. Hein.
Ouais, Shield Wall, c'est un truc. Ah, en plus, Shield Wall, c'est d'une, ça, non?
Shield, c'est
tout
bouclier,
est lié dans Shield cette Wall, émission, on a pensé à tout. Bon, il y a beaucoup de violence dans ce livre, parce que moi j'ai trouvé ça, j'ai regardé le clip, c'est ultra guerrier quoi, Amon Amarth.
Oui, bah il y a
bon, pas de lien vraiment avec le livre comme tu nous faisais des fois.
Bon, ça dépend. Bon.
Allez, on s'écoute ça sur le 101.5. Ça allait déménager sur le 101.5
dans le studio.
Moi je coupe le son.
Et je coupe le son.
Et je remets le. Non, ça c'est Luxor, c'était pas Monomar.
Allez, c'est l'heure d'une nouvelle chronique par Julien Védren dans Imaginaire sur le 101.5.
Vous pouvez le retrouver une semaine sur deux en alternance avec nous puisqu'il fait l'émission Calibre 58.
Ouais, à la même heure, émission consacrée au polar. Et là, il nous fait une nouvelle chronique dans cette émission qui s'appelle Nos fantastiques années polar. On s'écoute ça tout de suite sur le 101.5.
You're cute, but not cute enough. Fantastiques années polar.
routine check. He was alive at 10:35.
What was your name again?
Charles.
Charles what?
Just Charles.
Pour cette nouvelle chronique dans l'émission Imaginaire, je voulais faire un rapprochement entre la SFFF et les fictions policières. Et puis, comme on est à la radio, il me fallait quelque chose d'audible. Et enfin, comme c'était de ma chronique qu'il s'agissait, j'ai décidé, en accord avec moi-même, d'opter pour une certaine transversalité culturelle. De faire une chronique rebondie comme une balle de caoutchouc énervante, mais qui ne s'éloigne cependant pas de son sujet. On va donc, tout au long de l'année, parler de polar et de fantastique. Quoi de plus normal dans ce cas que d'intituler cette chronique « Les fantastiques années polar », hommage au film « Les fantastiques années 20 » de Raoul Walsh avec, excusez du peu, Humphrey Bogart et James Cagney. D'où le générique, d'où le lien entre fantastique et polar. Vous arrivez à suivre ? Alors, pour cette première de ces fantastiques années polar, j'ai choisi deux années, 1973 et 2022. Et là, je m'interroge. Est-ce que ces deux années qui sont autant d'indices peuvent vous éclairer sur le thème de ma chronique ? 1973, c'est l'année de tournage du film qui, lui, se déroule en 2022, l'année prochaine quoi. Le réalisateur est un pur génie. Il a commencé à officier en 1946 avec Child of Divorce, pour conclure sa riche carrière en 1989 avec L'Appel de l'espace. Et oui, je veux bien sûr vous parler de Richard Fleischer. Premier aparté, les géniales éditions Marest proposent deux ouvrages à lire absolument. Survivre à Hollywood de Richard Fleischer, donc, les mémoires du réalisateur en quelque sorte, et aussi Richard Fleischer, une œuvre de Nicolas Telop, un essai sur la cohérence cinématographique d'un réalisateur indémodable. Oui, car il est indémodable, Richard Fleischer. Et ce n'est pas Soleil Vert qui va venir contester cette affirmation.
What do you say?
It was an assassination.
Just like that?
One, the alarm system was out of order for the first time in 2 years. Two, the bodyguard was conveniently out shopping. Three, the punk didn't take anything. And four, the punk was no punk. He used a meat hook instead of a gun to make it look like a punk.
Au début, c'est un roman de science-fiction de Harry Harrison, paru en 1966 et aujourd'hui encore disponible chez J'ai lu. Richard Fleischer va en faire un pur film noir apocalyptique autour de Charlton Heston, Joseph Cotten et Edward G. Robinson. Et là, arrêtons-nous 5 petites minutes. Richard Fleischer est déjà à la presque fin de sa carrière. Ce film, je l'ai dit apocalyptique, sur fond d'écologie et de capitalisme sans vergogne, est cependant un hommage au passé. Vous avez Joseph Cotten. Lui, c'est l'acteur d'un cinéma disparu, celui d'Orson Welles. Alors, il a beau mourir après moins de 10 minutes de film, on ne peut pas s'empêcher de penser que sa présence est bien plus qu'un simple caméo. Parce que l'acteur se laisse tuer, parce qu'il a vu ce qu'était réellement le monde et qu'il préfère abandonner. Un qui mettra un peu plus de temps à abandonner, c'est Edward G. Robinson. Et lui, c'est le troisième larron des films de gangsters des années 1930 aux côtés de Humphrey Bogart et James Cagney, dont je vous ai parlé au début. Il joue là son dernier rôle, celui qui épaule un flic, en l'occurrence Charlton Heston, dans son enquête. C'est un bibliothécaire, une espèce en voie de disparition. Heston, c'est le flic de film noir, un peu corrompu, beaucoup intègre. Il enquête sur la mort de Joseph Cotten et il va découvrir quelque chose de peu reluisant sur notre société. J'ai oublié à dessein de citer Les Taylor Young, mais comme elle fait partie des meubles dans le film, c'est normal. Bon, les thématiques du film nous laissent à penser que la Terre est morte. Harry Harrison voyait ça arriver en 2022. Quel pessimiste ! On le saurait, non ? Replongez-vous dans ce film, il est tristement génial. Dans les autres de Richard Fleischer aussi. N'oubliez pas de lire le roman et d'aller acheter quelques ouvrages de chez Marest éditeur. Et enfin, excusez-moi pour cette chronique un peu longue, je ferai mieux ou pire la prochaine fois.
Musique finale, ce chat.
Ouais. Un blind test.
Non, j'aurais pensé. Moi, ça c'est Beethoven, mais moi j'aurais pensé à Peer Gynt, là justement, qui est utilisé dans Soleil Vert au moment de la mort du Pépé.
D'accord. Bon, en tout cas, on l'entendra dans deux semaines, puis il viendra avec Jean-Hugues dans une prochaine émission. Pierre-Marie, t'as quand même le temps de nous parler.
Oui, t'es sûr que j'ai du temps. D'habitude, oui, je suis censuré dans cette émission.
Il reste, on va te laisser 6 minutes.
6 minutes.
Tu ramènes toujours les mêmes, mais ça va.
C'est presque de l'aumône.
Ce sont des novellas, donc.
J'ai enfin le droit de parler, c'est bon. Du coup, sur le 101.5 Radio G, je vais vous parler de Une Heure Lumière, de la collection Une Heure Lumière chez Le Bélial, des livres qui sont beaux, des livres qui font bien d'être lus et que j'aime beaucoup. Et aujourd'hui, parce que tous les derniers livres que j'ai lus chez eux, cette collection-là, c'était des Anglais. Les Anglais, ils commencent à m'emmerder parce que quand je lis de l'anglais, en fait, je lis une traduction française d'un texte anglais. Je ne lis pas forcément un auteur anglais. Et là, il y avait un auteur français, Olivier Caruso, dont j'avais gentiment entendu parler, jamais lu, j'ai voulu essayer. Et le speech me laissait dubitatif. Je vais vous spoiler un petit peu, divulgâcher. Je savais que tu allais dire ça, Patrice. Et justement, comme tu es là, je vais te divulgâcher à toi, puisque je sais que ça t'intéresse. Dans un univers d'anticipation en France, un mania de l'informatique a créé une sorte de concurrent à Facebook. D'ailleurs, Facebook n'existe plus du tout. Aucun des réseaux sociaux que vous connaissez n'existe plus du tout. Puisque maintenant, nous sommes... En fait, on s'est aperçu que les réseaux sociaux, ça avait un effet pas pervers, mais assez bizarre.
Ah si, pervers.
C'est que on kiffait les shitstorms sur les réseaux sociaux. Les gens adoraient les shitstorms sur les réseaux sociaux et pas forcément y participer, mais juste le fait de voir quelqu'un qui se fait démolir sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui kiffent ça. Et du coup, on a un chimiste qui se dit dopamine, endorphine, tout ça. Et si on n'en faisait pas des constantes, en fait? Et les gens ont leurs réseaux sociaux directement sur le bras et on voit les constantes où on sait les shoots d'endorphine, les shoots d'adrénaline, les shoots de morphine. Tout ce que la vie nous fait, on le voit en temps réel. On voit nos constantes médicales en temps réel sur notre bras. Et donc, on va pouvoir ajuster notre mode de vie de manière à se prendre les shoots de nos protéines préférées.
Il n'a rien inventé parce qu'aujourd'hui on a les Apple Watch quand même.
Oui, mais les Apple Watch te permettent de savoir ce que tu fais, comment ton cœur fonctionne, le nombre de pas que tu fais. Tu sais pas à quel moment est-ce que tu viens de genre de l'ocytocine. Tu viens de faire un câlin à quelqu'un qui te plaît énormément, tu as une décharge d'ocytocine, la protéine du bonheur. Enfin voilà, c'est juste le gros kiff énorme. Et tu vas faire en sorte d'avoir ça de manière le plus répétée possible dans ta journée. De manière à passer ton temps à planer.
Il suffit de faire des câlins tout le temps.
Ouais, mais tu peux pas le faire à tout le monde. Et alors, c'est très bizarre. Free en France, hug, free si hug. Si tu fais des câlins à des gens qui ne sont pas d'accord, il peut t'arriver des problèmes.
Ça fait descendre la mine.
Et donc, je lis ça sur le premier chapitre, deux premiers chapitres, et je me dis, j'ai déjà lu ça quelque part. Et oui, Citoyen Plus d'Audrey Plenet. Excellente nouvelle. L'autrice, un peu moins. Mais la nouvelle est vraiment.
Là, elle t'écoute, hein,
ouais,
ceci-là.
C'est pour ça.
On va faire comme si elle était occupée par.
On savait bien que t'allais la caser.
Et tu me donnes lire, Pierre-Marie. On revient sur le livre, s'il vous plaît, reconcentrez-vous un petit peu. Et en fait, la base de l'histoire, c'est qu'on a un enfant. Une jeune fille, le jour de sa majorité, elle tue sa mère. Coup de couteau, en plein cœur, jour de son anniversaire, sa mère arrive avec un gâteau d'anniversaire, et elle récolte comme remerciement un joli coup de couteau en plein dans le cœur. Sauf que, les constantes dans cet univers-là, c'est suffisamment poussé pour que les constantes que vous voyez sur votre bras, la police, elle y a accès. Et donc, elle sait en temps réel quand est-ce que le cœur commence à avoir des soucis de manière à pouvoir intervenir. Un peu à la Minority Report, le film avec Tom Cruise il y a quelques années maintenant. Et donc là,
d'après un roman
de Kadic. Exactement, une nouvelle, une nouvelle de Kadic. Et la police arrive, trouve le cadavre, constate la mort, embarque la jeune fille, et le père effondré dit « Mais t'inquiète pas, c'est pas toi, t'as un souci dans ton cerveau, etc. » Et le père va engager une de ses anciennes amies, qui est avocate, pour la protéger. Je ne vous divulgue pas,
non, parce que là,
pas plus que ça. Là, on est vraiment sur le tout court, début du roman. Mais la question fondamentale, les deux questions fondamentales, d'abord, c'est la décision de justice, et parce qu'il va y avoir ce jugement de cette jeune fille. Moi, je ne vous dis pas quel va être le résultat, mais le jugement va être défini par les gens qui donnent leur avis en temps réel. Ils ont accès aux informations en temps réel, ils savent l'avancée de l'enquête en temps réel. Vous,
donc ils peuvent voter pour
et en fait, c'est
le résultat d'un procès.
Ils ne votent pas, mais ils donnent des commentaires. Et les commentaires influent forcément les jurys.
D'accord,
Donc il y a une certaine osmose qui se fait entre, pour arriver à ce que la fille s'en sorte ou pas, il faut jouer sur l'empathie des gens. Et l'empathie des gens n'existe plus qu'au travers de l'interface virtuelle. Donc il y a vraiment cette critique sociale du tout virtuel par rapport au la fille. On le sait dès le départ, elle a un souci psychologique qui est génétique. Elle n'y est pour rien, elle n'a pas eu de chance dans la loterie de la vie, elle n'y est pour rien. Est-ce que ça explique, est-ce que ça excuse son acte? C'est la question. Mais est-ce que l'interface virtuelle a le droit de prendre le pas sur le médical et sur la biologie d'une personne qui n'a pas eu de chance dans la vie quand elle est née? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est à quel moment est-ce que on peut influencer les gens avec le numérique? Et ça, c'est une question actuelle. C'est là, on parle en France d'un procès, mais les questions qu'il y a derrière, ça reste extrêmement politique, extrêmement mass-média, sur on peut influencer les gens et on peut embarquer des gens vers un endroit, une façon de penser, juste en sortant la bonne pièce au bon moment. Donc on rentre vraiment sur le Big Brother, sur quelques théories complotistes, mais c'est extrêmement bien mené, les thèses et les antithèses s'opposent et se coordonnent de manière assez invraisemblablement. C'est pas être très français ce que je viens de dire, mais c'est pas grave, moi je suis pas auteur. Et ça embarque, et je vous conseille de le lire. Donc c'est Olivier Caruso. Le titre, c'est Symposium Incorporation, que vous trouvez chez n'importe quel bon libraire.
Mais là, tu nous as beaucoup parlé du décor et du thème, mais qu'en est-il de l'écriture et des personnages, par exemple?
Alors, les personnages, je te l'ai dit, il y a le père, la fille malade et l'avocate. Tout se passe entre les trois, oui. Et la mère qui est morte, dont on se souvient.
Oui, j'avais compris, mais au niveau de leur rendu, de leur... le style est agréable à lire, des choses.
Bon, on va te le passer, puis tu nous feras une chronique pour la prochaine émission. pour notre site web,
imaginez. Le seul point négatif de l'écriture, c'est que en même temps que les gens discutent, tu vois des inkipits où tu as les remarques des gens en commentaire. Tu suis des réseaux sociaux au milieu des dialogues. Et ça casse un peu la lecture. Mais en même temps, c'est immersif.
Mais ça donne l'ambiance.
C'est ça. Ouais. C'est les gens, dans une discussion, les deux des protagonistes sont en train de prendre un verre de vin et discuter de l'affaire en cours. Et en même temps, il se passe tous les réseaux sociaux qui ne dorment jamais, qui sont toujours alimentés par des personnes. Et tu suis l'évolution de la masse derrière, en plus de ces deux personnes qui réfléchissent et qui essaient de dire à tel moment il faudra sortir telle chose, tel fait,
Franck Herbert a un peu fait ça dans Dune, bien qu'il n'y ait pas des réseaux sociaux, mais on a l'impression dans ce premier roman qu'à chaque fois qu'il y a deux personnes qui discutent ensemble, elles sont parfaitement conscientes qu'elles peuvent être écoutées et que donc leurs propos sont influencés par d'autres, d'hypothétiques ou de potentiels auditeurs cachés.
Et question subsidiaire, quel est le lien entre Dune aussi et la collection Une Lumière au Bélial?
Forcément, Une Heure Lumière, toute Une Heure Lumière a eu son même illustrateur. Dune, non. Mais le MOOC sur Dune, oui.
Mais si, tous les Dunes qui ressortent en ce moment sont...
C'est aussi Aurélien Polis, mais je suis désolé, Franck Herbert, quand il a écrit son bouquin, Aurélien Polis, il n'était pas en train d'œuvrer à ce moment-là.
Et quand c'est paru en presse pocket, c'était quand même Voltage Sud Mac qui avait fait l'illustration.
Et puis alors, les couvertures du Sud Mac, je pense que ça a beaucoup aidé. Mais le travail d'Aurélien Polis sur le MOOC, et d'ailleurs à l'intérieur du MOOC, donc le MOOC, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un magazine de fans, c'est un mi-chemin,
un magazine book.
Et du coup, c'est quand même un bon gros pavé de fans qui vous parle du film et de ce qu'il y a autour du film, et vous retrouvez pas mal de planches qu'il a fait sur Dune. Le travail d'Aurélien Polis, je rappelle que c'est un infographiste et pas un illustrateur en tant que tel. Il n'est pas sur le traditionnel. Il fait quand même des rendus infographies de toute beauté. Allez voir Aurélien Polis, Aurélien comme Aurélien, Polis comme la police.
Ou réécouter l'interview qu'on doit trouver encore sur la page podcast, puisqu'on a interviewé Aurélien, notamment parce qu'il a fait la couverture de notre dernier recueil de nouvelles, Orient Extrême. Voilà.
Et puis, vous allez sur n'importe quelle librairie, vous devriez pouvoir trouver ce MOOC-là.
Oui, on le trouve dans les librairies,
Angeline. J'ai bien suivi un deuxième MOOC qui va sortir.
Non, ils en ont fait une réédition avec quelques compléments.
Augmenté, oui, c'est ça.
Un petit peu augmenté, oui.
L'agenda. Sébastien, tu voulais nous faire part d'un financement participatif qui tient à cœur.
Vous savez que pour La Tête dans le Donjon, j'avais parlé avec le plus grand bien de la version augmentée de Loup Solitaire. C'est un nouveau fanzine, La Tête dans le Donjon. Et donc, il y a une campagne ululée en ce moment même. Pour un hors-série sur Loup Solitaire qui recouvre vraiment tous les cycles. Il y a eu 30 tomes en ce moment qui ont été traduits en version française.
Mais hors série de quoi?
En fait, c'est un hors-série qui revient sur le personnage de Lou Solitaire, les mondes de Lou Solitaire. Donc vraiment, comme le MOOC là sur Dune,
d'accord,
la totale sur Lou Solitaire.
Un genre de magazine sur le Lou,
voilà,
Solitaire.
C'est un webzine, voilà. Donc pas en papier encore.
Il n'y aura pas de version primée.
Mais vous pouvez donc participer à la campagne sur Ulule pour 5 euros, une somme modique. Et c'est le Marteau et l'Enclume qui fait ça. Et ça, ils ont déjà fait donc, le Prêtre Jean en hors-série, ouais, Sorcellerie, d'accord, La Quête du Graal. Et il y a eu de très bons échos dessus.
Mmh. Ok, donc des séries de livres-jeux. Moi je voulais dire annoncer le dévernissage de l'exposition Du Monde au Balcon chez Fishbrain. C'est demain soir, on en parle parce que il y a du Candice Roger et les illustrations d'Antoine Jacques aussi qui sont super bien. La Nuit des Chercheurs vendredi à la Fac Saint-Serge, il y aura une conférence l'Égypte d'Homère en passant par Tintin jusqu'à Assassin's Creed. Voilà.
Et ce week-end, il y a les Aventuriales à Ménétrol.
Ah ouais,
mais c'est ce week-end.
J'y serai d'ailleurs. Je vous ferai un petit compte rendu après.
Ouais, bon, super.
Mettre Jean-Marie aussi. On va se voir.
Ce week-end commence la Austin Week à Angers. Et dans ce cadre, jeudi, alors pas celui qui arrive, mais dans 9 jours, il y aura une rencontre avec Benjamin Guérif des éditions Gallmeister à la librairie Richer. Et puis c'est le festival Lévitation ce week-end au Shabada. Donc on va terminer en musique avec Slift, les Toulousains, un extrait de leur Lévitation session. Et on se retrouve dans 2 semaines sur le 101.5. Et restez à l'écoute de Radio G, parce que tout de suite c'est les Voix du Scénarium, l'émission sur le jeu de rôle. On parlait de et jouer de l'appel de Cthulhu en direct.
Waouh!
C'est parti! Et ça va dépoter.
Le lieu où elles se déroulent et prennent vie. Écoutons et parcourons ensemble les voies du scénarium.
Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre.
Bienvenue dans ma demeure. Entrez ici de votre plein gré et laissez-y un peu de la joie que vous y apportez.